Nous vous présentons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous recevons Samuel Blumenfeld, co-commissaire de l'exposition Le D-Book, fantôme d'un monde disparu, proposé actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Bonsoir Samuel Blumenfeld.
Bonjour.
Alors le D-Book n'est pas un démon, c'est l'âme d'un défunt qui s'attache à un vivant. Tradition populaire du monde juif, elle a été popularisée par Hansky et a survécu à la Shoah dans le monde yiddish et pas seulement. Plus largement aujourd'hui, le D-Book c'est également un référent culturel pour qualifier l'intrusion du surnaturel dans l'ordre logique naturel. L'exposition du mage, le D-Book fantôme d'un monde disparu, montre que cette figure a triomphé de l'histoire jusqu'à nos jours. Avec Pascal Samuel, vous êtes co-commissaire de l'exposition qui sera proposée jusqu'au 26 janvier prochain, c'est bien ça?
Absolument.
Elle risque d'être prolongée, vous pensez?
Non, ça s'arrête, ça ferme véritablement le 26 janvier.
Alors il faut aller la voir rapidement.
Absolument, là elle ne reviendra pas. Hein. Le D-Book peut-être, mais l'exposition non.
Alors, s'intéresser au D-Book, c'est explorer plusieurs dimensions religieuses, culturelles, artistiques et symboliques. Et à travers plus de 200 documents et des œuvres, comme des peintures de Marc Chagall, jusqu'aux performances de Sigalit Lindau, des films yiddish comme celui de Michal Wachinski ou ceux de Sidney Lumet ou des frères Cohen, l'exposition explore une des figures les plus inquiétantes de la culture juive, l'âme d'un mort condamné à errer et à posséder les vivants. Autant d'éléments qui font revivre un monde qui n'a pas disparu dans les affres de la Shoah. Ce que montre l'exposition, c'est que ce mythe reste une clé de compréhension de l'identité juive, habitée par un passé traumatique et par la hantise de sa disparition. On va revenir tout sur ces éléments. Et évidemment, la première question qui s'impose, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue l'idée ou la genèse de cette exposition qui fait du D-Book le thème central?
Alors, comme vous l'avez souligné, nous sommes deux commissaires pour cette exposition. Deux commissaires, c'était vraiment pas trop parce que c'était une exposition transversale, comme vous l'avez noté, c'est-à-dire qu'à la fois c'est théâtre, ethnologie, cinéma, art plastique. Donc c'est très riche et surtout cela demandait de définir un corpus et puis d'aller chercher un petit peu partout. Le fait que nous soyons deux, moi et Pascal Samuel, avec des compétences très différentes, parce que bon, Pascal Samuel est conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, elle est spécialiste de la peinture du XXe siècle, moi je suis journaliste au Monde, j'écris sur le cinéma, et en fait je suis entré par la porte D-Book, non par les arts plastiques, non d'ailleurs par le théâtre, mais par le cinéma et donc par le film yiddish de 1937 de Michal Wachinski, puisque j'ai été son biographe dans un livre paru, au début du XXIe siècle, aux éditions Grasset, « L'homme qui voulut être prince, les vies imaginaires de Michal Wachinski ». Donc j'étais, moi, entré par, donc, par cette porte, en fait, assez étrange, parce que le cas du réalisateur m'interpellait assez, puisque Michal Wachinski était, avant-guerre en Pologne, le metteur en scène le plus populaire de la petite industrie du cinéma polonais. Néanmoins, une quarantaine de films, quand même, entre 1929 et 1939. Films qui étaient tous, à l'exception du D-Book, quand même assez médiocres. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, au moins autant que le film, que son adaptation de la pièce d'Hansky, c'était que Michal Wachinski, après-guerre, était devenu producteur et se faisait passer pour prince polonais catholique. Donc c'était, ce que j'avais essayé de comprendre, c'était comment on pouvait être à la fois le réalisateur du film emblématique du cinéma yiddish, parce que véritablement, le D-Book est le joyau du cinéma yiddish. C'est le très grand film de cette petite filmographie qui a pour particularité de s'éployer sur plusieurs territoires, ex-Union soviétique, Pologne, États-Unis, même un petit peu France. Donc comment est-ce qu'on pouvait réaliser ce film et ensuite devenir un autre, enfin, c'est véritablement au sens plein du terme. Donc autant dire que moi et Pascal Samuel, on s'était demandé, mais si on fait une exposition sur le D-Book, qu'est-ce qu'on met dedans? Parce qu'en fait, c'est la première exposition du genre. Donc, la question se posait de savoir, où va-t-on avec le D-Book? Alors, on savait que bon, bah, on va au moins, tout le moins, on peut accrocher le film. On peut accrocher la pièce de théâtre, puisque la pièce de théâtre, la pièce de Chalamansky, la pièce aussi emblématique du répertoire yiddish, aussi la seule pièce yiddish à avoir largement franchi les frontières du ghetto. On pouvait aussi accrocher, c'est-à-dire traiter les fameuses expéditions ethnographiques d'Anski en Volhynie, en Podolie, c'est-à-dire en l'occurrence la partie occidentale de l'Ukraine, expéditions qui ont lieu entre 1912 et 1914, qui visaient justement à recueillir les principaux artefacts des différents shtetls là-bas, avec l'intuition très forte chez Chalamansky et les individus qui l'accompagnaient que ce monde allait disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc on savait qu'on pouvait accrocher cette expédition, mais après ça, qu'est-ce qu'on y mettait, quoi? Qu'est-ce qu'on met lorsqu'on traite le D-Book? Et puis surtout, est-ce qu'on ne risquait pas de devoir s'arrêter en 1939, à l'occurrence, puisque après la Shoah, est-ce que le D-Book a survécu à la Shoah? En fait, nous n'avons pas été menacés par l'attrition, mais enfin, surtout, on a été confrontés à un matériau assez abondant, somme toute.
Et dans différents domaines, hein, comme vous venez de l'expliquer. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom comment s'articule l'exposition? Je voudrais juste dire, hein, comment elle commence. Elle commence par expliquer les origines du D-Book. On l'a dit, hein, issu d'une tradition mystique et du folklore juif, plus précisément de la Kabbale et des récits chassidiques. Et elle remonte au Moyen-Âge. On ne le savait pas forcément. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler à la fois du parcours et puis des origines ou des plus anciens documents ou traces qui mentionnent cette notion?
Dans le cas des plus anciennes traces, il faut remonter au XVIe siècle à peu près. Très possible qu'on puisse remonter avant, mais enfin, en fait, concrètement, hein, dans l'état actuel du savoir, c'est véritablement le XVIe siècle. L'enjeu, puisque c'est une exposition d'esthétique, hein, d'abord, hein, l'enjeu était quand même de partir de la pièce d'Anski. Donc, la pièce d'Anski est montée pour la première fois en 1920 à Varsovie, 3 ans en fait après la publication de la pièce d'Anski, qui ne verra jamais d'ailleurs la pièce sur scène de son vivant. Donc, c'était ça le centre de gravité de l'exposition. Il s'agissait aussi de garder une frise chronologique. S'il n'y a pas de chronologie, le visiteur va se perdre. Et il s'agissait aussi de mettre en relation à la fois le film, la pièce, surtout, c'est en fait au-delà de la pièce, des différentes mises en scène de la pièce, et puis aussi les différents peintres, en fait, à la fois inspirés par le D-Book.
Il y a aussi présenté de manière très intéressante des talismans, des objets un peu magiques du rituel.
Alors, juif. Si vous voulez, c'est une petite section d'exposition. Alors, elle est là parce qu'il s'agit de signaler que cela a existé, que le D-Book a existé avant Anski. Mais ce n'est pas, à proprement parler, le sujet de l'exposition. Sinon,
ni le point de départ.
Non, encore moins le point de départ. Hein. Donc, il s'agissait de dire que cela existe, mais ce n'est absolument pas vraiment le sujet d'exposition.
Alors, le cinéma aussi, hein, tient une grande place, ou les références cinématographiques. Quelle est votre définition à vous que vous donneriez du D-Book?
Moi, je resterai assez classique. Hein. Donc, véritablement, c'est la traduction, quoi. C'est un esprit qui s'attache à un autre. Mais une fois qu'on reste tout simplement sur la définition, un esprit qui s'attache à un autre, on s'aperçoit que le phénomène de possession dans le judaïsme est très très différent de ce qui peut exister dans le folklore chrétien ou même musulman. Parce qu'il y a un bon et un mauvais D-Book. La possession n'est pas nécessairement négative. Donc, en fait, à partir du moment où elle n'est pas nécessairement négative dans le judaïsme, eh bien, on peut décliner le D-Book de manière métaphorique.
Et puis, ce n'est pas forcément non plus une notion inquiétante.
ce n'est pas toujours une notion inquiétante. Ça peut parfois être rassurant. Néanmoins, que ce soit dans la pièce de Dansky ou dans le film Yiddish, il y a une dimension fondamentalement inquiétante.
Alors le titre de cette exposition, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi, le D-Book, Fantôme du monde disparu? On a l'impression à suivre ce parcours que finalement cette figure est une sorte de reflet du monde juif ashkénaze.
Alors c'est pas seulement, alors c'est principalement le monde ashkénaze parce que c'est, on va dire, c'est d'un point de vue esthétique, c'est surgit du monde ashkénaze, puisque bon, Chalomansky est né à Vitebsk en Biélorussie, et donc nous sommes en, on va dire, nous naviguons, je veux dire, entre la Russie, la Lituanie, l'Ukraine. Mais donc nous sommes clairement en Europe de l'Est. Mais vous voyez, un des films accrochés dans cette exposition, c'est un moyen métrage français qui s'intitule D-Book de Diane Walid. C'est un film réalisé en 2019 et qui se déroule à Paris, dans le 19e arrondissement, dans une communauté séfarade.
Oui, on va voir que c'est une notion qui reste quand même très moderne. Juste par rapport au titre, le monde disparu, c'est lequel? Fantôme du monde disparu.
Alors, bien évidemment, le monde disparu qui est le plus évident, bah, c'est tout simplement, c'est bien évidemment le monde d'Europe centrale, hein, que je veux dire, qui est parti en fumée. Ou du moins grande partie en fumée, mais en fait, par définition, en fait, nous évoluons toujours dans des mondes disparus. La vocation des mondes, c'est qu'ils disparaissent.
Hein. Et ce D-Book qui voyage dans plusieurs traditions juives et notamment en Israël, même avant sa création, peut-être, il a été notamment traduit par Bialik.
Alors, l'un des étranges particularismes de la pièce Dansky, c'est que c'est une pièce emblématique du théâtre yiddish, sauf que elle est écrite à l'origine en russe et traduite en hébreu par Chaim Nachman Bialik, qui est un poète hébraïsant, qui n'est pas encore devenu le très grand poète hébraïsant donc de l'État d'Israël qu'il sera par la suite, mais elle est traduite en hébreu. Sauf que lorsqu'Anski doit quitter la Russie suite à l'arrivée des bolcheviks au pouvoir après la révolution russe, il part précipitamment en Lituanie. Et donc il emporte avec lui son manuscrit du D-Book, qui est un manuscrit qui s'écrira sur plusieurs années, hein, qui demandera beaucoup de réécriture, et perd son manuscrit en russe. Et donc, perdant son manuscrit en russe, il ne reste que la traduction en hébreu de Bialik. Et donc, le texte yiddish que nous connaissons est une traduction de l'hébreu. Et c'est la force involontaire de cette pièce, c'est que tout simplement, son sous-titre, puisque c'est le D-Book entre deux mondes, eh bien, c'est aussi le D-Book entre deux langues. Et en l'occurrence, les deux langues, yiddish et hébreu, qui sont les deux grandes langues du peuple juif au XXe siècle.
Et puis il y a la traduction en français par Edmond Flegg, qui est dans l'actualité aujourd'hui. Il y a un livre qui sort, signé du Grand Rabbin de France, des colloques, un prochainement le 17 décembre à l'Institut de France. C'est bien lui, Edmond Flegg, qui traduit en français pour la première fois la pièce?
C'est pas... je crois qu'il y a Marie-Thérèse Körner qui traduit la pièce. Maintenant, nous avons une traduction de référence hein, quand même, hein, qui vient d'être publiée. C'est celle de Batia Baum, publiée par la Maison de la Culture Yiddish. Et je pense que c'est désormais sur celle-ci qu'il faut s'appuyer.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Samuel Blumenfeld, qui nous parle de l'exposition Le D-Book, fantôme d'un monde disparu, proposée actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est de voir toutes les notions qui appréhendent cette figure, vous l'avez dit, hein, qui sont riches, culturelles, les temps aussi traversés, plusieurs époques, et de voir comment, aujourd'hui, finalement, cette notion reste très moderne. Il y a des livres qui sortent, parfois des pièces de théâtre, parfois des références qui sont très très loin de l'origine, qui est celle originelle du D-Book. Comment vous expliquez ce succès de cette figure du D-Book?
Alors, récemment, vous voulez dire, hein,
récemment,
récemment.
Oui.
Au cinéma, par exemple, parce qu'il y a je dénombre comme ça, sur ces 10 dernières années, pas loin de 15 films mettant en scène la figure du D-Book. Le dernier, plus récemment, 2023, un film qui s'appelle Attachment, donc c'est la traduction donc, de D-Book en anglais, Attachement, par un metteur en scène danois, Gabriel Beer, en anglais, tourné en Grande-Bretagne. Et en fait, je dirais que cette résilience du D-Book au cinéma, en fait, raconte en fait une attirance pour le surnaturel juif, en fait, en ce moment. Et puis au-delà du surnaturel juif, une très forte curiosité pour le monde orthodoxe juif.
Oui.
Que l'on retrouve d'ailleurs aussi à la télévision. Il y a plusieurs séries télévisées, mettant en scène ce monde. Je pense à Shtizel, par exemple. Mais parce en fait, c'est un monde peu mis en scène, en fait. Jusqu'à une date assez récente, c'était un monde qui était assez peu mis en scène. Et donc, du coup, les gens sont curieux de le découvrir.
Et puis, c'est une figure qui est quand même très, très forte, qui prête à un imaginaire, ce lien entre le monde des morts, le monde des vivants, ces passerelles, un élément de la culture juive ancienne, un peu imprégné de magie. Est-ce que c'est pas ça aussi qui explique le succès de cette figure?
Il y a ça aussi, comme c'est une figure relativement méconnue, eh bien, elle a été relativement inexploitée au cinéma, s'entend. Et donc, cela constitue une mine pour les réalisateurs. Aussi, la force du D-Book, c'est que, par définition, le D-Book n'a pas de forme. Je veux dire, c'est très maniable. Je veux dire, on peut véritablement y mettre plein de choses à l'intérieur. C'est pas le golem. Mettez en scène le golem, bah, il faut bien qu'il y ait le golem quelque part. Et on se retrouve immédiatement rattaché à Prague, je veux dire, à un imaginaire moyenâgeux. Pour le D-Book, en fait, la modernisation est beaucoup plus simple.
Est-ce que la réalisation de l'exposition est exactement celle que vous souhaitiez? Est-ce que aussi, au-delà de faire découvrir cette figure et puis des œuvres importantes hein, du cinéma, est-ce qu'il y avait un message que vous souhaiteriez faire passer?
Oh, un message, non, parce que sinon, j'utiliserais le télégraphe. Il me semble surtout... L'exposition, oui, elle est à peu près celle que l'on souhaitait réaliser. Quand je dis à peu près, c'est qu'il y a certaines œuvres qu'on aurait souhaité inclure, qu'on n'a pas pu inclure, parce que c'est très, très compliqué de réaliser une exposition. J'irais surtout celle-ci, puisqu'en fait, le corpus se trouvait en fait un peu aux quatre coins du monde. Entre autres en Russie. Donc, faut être conscient que depuis l'invasion de l'Ukraine, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de relation du tout avec la Russie. Donc, on ne peut plus rien faire venir. Il y a une chose quand même qui vient directement de Russie. Ça aussi, ça raconte une histoire attenante à la géopolitique actuelle. C'est que dans l'exposition, on peut découvrir une vingtaine de photos prises par Salomon Youdovine, donc qui était un des participants de l'expédition ethnographique d'Anski. Salomon Youdovine, donc grand artiste plasticien, aussi grand photographe. Et le projet, l'un des objectifs de cette expédition était de créer ses propres traces. Et en l'occurrence, Salomon Youdovine est le premier, en fait, à photographier de manière extensive et réfléchie le monde juif orthodoxe en Europe centrale. Or, ces photos-là, qui se trouvaient à Moscou, en fait, nous avons pu les récupérer, ou plutôt nous avons pu en récupérer les plaques, donc les montrer comme on devait les montrer, grâce à un archiviste qui est parti avec parce qu'il fuyait la Russie. Il ne pouvait plus rester chez lui.
C'est tout à fait exceptionnel.
C'est tout à fait exceptionnel. C'est la première fois qu'on peut, que les photos de Salomon Youdovine sont exposées en France.
Alors, il n'y a pas de problématiques contemporaines à aborder, hein, mais on pense quand même à des thèmes comme l'identité, l'exil, le monde disparu, peut-être des traumatismes. Est-ce que c'est judicieux de penser à ça quand on voit cette exposition?
Alors, on s'est dit avec Pascal Samuel, mais c'est quand même assez... c'est une exposition qui a été inaugurée en septembre dernier. On s'est dit, elle est inaugurée presque un an après le 7 octobre. Hein, donc, ce n'est pas anodin. En même temps, elle n'a pas été pensée quand même comme cela. De toute façon, ça aurait été impossible. Mais néanmoins, on se disait... on vit avec les morts. Hein. En fait, au-delà de ça, je pense que ce que le D-Book raconte, mais en fait, génération après génération, c'est que on vit sans cesse dans le monde de ses pères et de ses grands-pères. Et que dans le judaïsme, en l'occurrence, on est toujours le fruit de plusieurs générations. Donc c'est cela que raconte le D-Book. On est bien évidemment hanté par ces fantômes, mais hanté, ça veut pas dire que l'on est nécessairement effrayé par ces fantômes. Ça veut dire qu'on a une responsabilité à l'égard de ces fantômes. Et en fait, la responsabilité, c'est de transmettre ce qu'ils nous ont donné et donc, en fait, de les maintenir vivants d'une certaine manière.
Donc l'expo aurait pu s'appeler « Traces d'un monde disparu ».
Oui, le Coros, cette exposition ne montre en fait que des traces.
Vous suivez l'actualité du cinéma. Est-ce qu'il y a des films qui se font, et notamment après le 7 octobre, autour de ce lien entre, de réflexion entre le bien, le mal, la rédemption, la vie, la mort?
Ça, je pourrais pas vous répondre parce que nous sommes, en fait, en dehors des documentaires. Il y a beaucoup de documentaires autour du 7 octobre. Sur le plan de la fiction, j'ai encore rien entendu.
On est trop tôt peut-être, on n'est pas sorti du traumatisme.
Trop tôt, et puis bon, on va dire que c'est pour le moins, enfin, nous sommes à un niveau de violence paroxystique, c'est compliqué quand même de mettre cela en scène par le biais de la fiction, parce que les images que l'on a vues, et que l'on va continuer de voir, défient l'entendement.
Est-ce que vous pensez au public, à la réception de cette exposition? On arrive dans les vacances de fin d'année. Nos enfants à occuper, est-ce qu'un enfant peut visiter cette exposition à partir de quel âge, selon vous?
Moi, je pense que c'est de 7 à au-delà de 77 ans.
Donc, c'est pour tout le monde?
Ah, mais véritablement, bien sûr, surtout que c'est une exposition qui est... Il y a beaucoup d'images, hein. Enfin, il y a beaucoup de films projetés. C'est une exposition multimédia, donc... Elle est véritablement très accessible et puis l'effort de pédagogie a été très poussé de manière à ce que le novice, partant du postulat que le public est globalement novice, donc elle est accessible à tout le monde.
Alors comme toujours au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a des événements périphériques ou en marge de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous en relever un ou deux, nous expliquer comment ils ont été programmés?
Alors, il y a une projection du film de Michal Wachinski dans l'auditorium, et puis il y a encore des visites guidées, y compris pour un jeune public. Je pense que c'est important de s'y inscrire. Enfin, c'est opportun de s'y inscrire.
Voilà. On peut aller sur le site du MAJ et on découvre toute la programmation.
Tout est disponible et on peut s'inscrire sans problème.
Alors, il y a une question. Habituel, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission, sinon une ou deux phrases. Vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de visiter l'exposition. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais que vous allez découvrir une exposition sur un monde effectivement disparu et qui pourtant reste contemporain.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à propos de votre actualité. Vous êtes co-commissaire de l'exposition actuellement hommage, le D-Book Fantôme d'un monde disparu, qui est proposé jusqu'au 26 janvier 2025, un court résit en famille, avec les parents, les grands-parents, les amis. C'est vraiment un moment à la fois pédagogique, instructif, on apprend beaucoup de choses et on s'aperçoit comment aussi nos traditions juives font partie de la culture universelle, qu'elles peuvent toucher tous les domaines et créer des liens entre chacun de nous. Voilà, donc c'est au Musée d'Art, je rappelle l'adresse, Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple, à Paris dans le 3e. Bonsoir et à très bientôt.
Merci beaucoup.